Cinq lettres sur le culte et le ministère par l'esprit. Auteur, William Trotter. Quatrième lettre, comment on peut discerner la direction de l'esprit dans l'assemblée? Marque positive. Bien-aimé frère. L'homme qui tenterait de définir les opérations de l'esprit dans le réveil ou dans la conversion d'une âme, ne ferait que trahir sa propre ignorance, et nierait, de plus, cette souveraineté de l'esprit déclarée dans ses paroles bien connues. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, Jean chapitre 3 verset 8. Et cependant l'Écriture abonde en signes, qui peuvent servir à reconnaître ceux qui sont nés de l'esprit et ceux qui ne le sont pas. Il en est de même du sujet de cette lettre. J'espère être préservé du danger d'usurper la place du Saint-Esprit, en croyant pouvoir définir exactement le mode de ses opérations sur les âmes de ceux qu'il pousse à agir dans l'assemblée, soit dans le culte, soit en exerçant un ministère au milieu des saints. La chose peut être, dans certains cas, beaucoup plus claire et beaucoup plus sensible que dans d'autres. Je veux dire, sensible à celui qui est ainsi appelé à agir. Mais, quelque vain et présomptueux qu'il pût être de chercher à donner une vraie et complète définition sur ce sujet, l'Écriture nous offre d'amples instructions touchant les marques du vrai ministère. Et c'est sur quelques-unes des plus simples et des plus évidentes de ces marques que je désire maintenant attirer votre attention. Il en est qui s'applique à la matière qui est l'objet du ministère. Et d'autres qui concernent les motifs qui nous portent à agir dans le ministère, ou à prendre une part quelconque à la direction des assemblées des saints. Les unes fourniront à ceux qui agissent ainsi, une pierre de touche, au moyen de laquelle ils pourront se juger eux-mêmes. Et à l'aide des autres, tous les saints pourront discerner ce qui est de l'esprit et ce qui procède d'une autre source. Les unes serviront à montrer ceux qui sont les dons de Christ à son Église pour le ministère de la parole. Et les autres aideront ceux qui sont réellement ces dons-là, à décider l'importante question de savoir quand ils doivent parler et quand ils doivent se taire. Mon âme tremble lorsque je pense à ma responsabilité en écrivant sur un tel sujet. Mais ce qui m'encourage, c'est que notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Et que l'Écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et 17. Éprouvez tout ce que je pourrais écrire au moyen de cette règle parfaite, et, si quelque chose ne supportait pas cette épreuve, que Dieu vous accorde la grâce, bien-aimés frères, d'être assez sages pour le rejeter. Ce n'est point par des impulsions aveugles et des impressions inintelligentes, que l'esprit dirige, mais c'est en remplissant l'entendement spirituel des pensées de Dieu, telles qu'elles sont révélées dans la parole écrite. Et en agissant sur les affections renouvelées. Dans les premiers temps de l'Église, il y avait, il est vrai, des dons de Dieu, dont l'emploi pouvait ne pas être lié à l'intelligence spirituelle. Je veux parler du don des langues, quand il n'y avait pas d'interprète. Et il paraîtrait que ce don étant, aux yeux des hommes, plus merveilleux que les autres, les Corinthiens aimaient beaucoup à l'exercer et à l'étaler. L'apôtre les en reprend. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais, dans l'assemblée, j'aime mieux prononcer cinq paroles avec mon intelligence, afin que j'instruise aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, mais, pour la malice, soyez de petits enfants. Mais, dans vos entendements, soyez des hommes faits, 1 Corinthiens chapitre 14 versets 18 à 20. Le moins, donc, qu'on puisse attendre de ceux qui exercent un ministère, c'est qu'ils connaissent l'Écriture, qu'ils aient l'intelligence de la pensée de Dieu telle qu'elle est révélée dans la parole. Cette connaissance, cette intelligence, remarquez-le, peuvent se trouver chez un frère et n'être accompagnés d'aucun don d'élocution, d'aucune capacité pour les communiquer à d'autres. Mais sans elle, qu'aurions-nous à communiquer? Assurément les enfants de Dieu ne s'assemblent pas de temps en temps au nom de Jésus, pour qu'on leur présente des pensées toutes humaines, ou pour qu'on leur répète ce que d'autres ont dit ou écrit. Une connaissance personnelle de l'Écriture, l'intelligence de son contenu, sont certainement des choses essentielles au ministère de la parole. Jésus leur dit, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Ils lui disent, « Oui, Seigneur. » Et il leur dit, « C'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. » Matthieu chapitre 13 versets 51 et 52. Quand notre Seigneur était sur le point d'envoyer ses disciples pour qu'ils fussent ses témoins, il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures, Luc chapitre 24 verset 45. Et combien de fois ne lisons-nous pas que Paul, quand il prêchait aux Juifs, s'entretenait avec eux d'après les Écritures, Actes chapitre 17 verset 2 et 4. Si l'apôtre s'adresse aux Romains comme à des chrétiens capables de s'avertir les uns les autres, c'est parce qu'il peut dire d'eux. Or je suis persuadé, mes frères, moi-même aussi, à votre égard, que vous-même aussi vous êtes plein de bonté, rempli de toute connaissance, et capable de vous exhorter l'un l'autre. Romains chapitre 15 verset 14. Dans les portions de l'Écriture qui traitent le plus expressément de l'action de l'Esprit dans l'Assemblée, dans 1 Corinthiens chapitre 12, par exemple, ce n'est pas à l'exclusion de la parole que cette action est dite avoir lieu. Car à l'un est donné, par l'Esprit, la parole de sagesse. Et à un autre la parole de connaissance, selon le même Esprit, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8. Lorsque l'apôtre énumère les choses par lesquelles lui et d'autres se rendent recommandables comme serviteurs de Dieu, nous trouvons ce qui suit dans cette admirable liste. Par la connaissance. Par la parole de la vérité. Par les armes de justice de la main droite et de la main gauche, 2 Corinthiens chapitre 6. Et si vous faites attention à ce qui constitue cette armure, vous trouverez que c'est la vérité qui est une ceinture pour les reins. Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 6 versets 14 et 17. L'apôtre, faisant allusion à ce qu'il avait déjà écrit aux Éphésiens, dit « D'après quoi, en le lisant, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ ?» Éphésiens chapitre 3 verset 4. Quand le même apôtre presse les saints de s'exhorter les uns les autres, voyez ce qu'il mentionne avant tout, comme une condition essentielle et préalable pour cela. Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse. Vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce, Colossiens chapitre 3 verset 16. Il dit de même à Timothée, en proposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise. Et il l'exhorte, en disant, jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Occupe-toi de ces choses. Sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. Sois attentif à toi-même et à l'enseignement. Persévère dans ces choses, Car en faisant ainsi tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. 1 Timothée chapitre 4 versets 6, 13, 15 et 16. Dans la seconde épître, Timothée est exhorté de cette manière. Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, comme elle est à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. Chapitre 2 verset 2. Et, quant à Timothée lui-même, nous lisons. Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. Verset 15. Parmi les qualités requises pour être évêque ou surveillant, telles qu'elles sont mentionnées dans Tite chapitre 1, nous trouvons ceci. Tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par un saint enseignement, que de réfuter les contredisants. Tout ce qui précède prouve avec évidence, mes frères, que ce n'est pas seulement par de petits fragments de vérité, présentés toutes les fois que nous nous sentons poussés à le faire, que l'Église peut être édifiée. Note. À Dieu ne plaisent que des frères quelconques puissent être par ces lignes découragés de dire, ne fût-ce que quelques paroles, tendant à une réelle édification. Mais ceux que le Seigneur emploie ainsi, seraient les derniers à supposer que leur ministère est le seul ministère, ou celui par lequel Dieu subvient principalement aux besoins des saints. Non, les frères par le moyen desquels le Saint-Esprit agit pour paître, nourrir, et conduire les saints de Dieu, sont ceux dont l'âme est habituellement exercée par la méditation de la parole. Ceux qui, par le fait de l'habitude, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Hébreux chapitre 5 verset 14. Comme nous l'avons dit, le moins qu'on puisse attendre de ceux qui ont un ministère dans l'Église, c'est qu'ils aient une telle connaissance de la parole de Dieu. Cependant, cette connaissance ne suffit pas. Il faut aussi que la parole de Dieu soit appliquée à la conscience des saints, de telle sorte qu'elles répondent à leurs besoins actuels. Pour cela, il faut, ou apprendre à connaître l'état des saints, en ayant des communications avec eux, etc., et cette connaissance ne serait jamais que fort imparfaite, ou bien, être directement dirigé de Dieu. Ceci est vrai des frères qui, comme évangélistes, pasteurs et docteurs, sont, dans le sens le plus complet du mot, et le plus manifestement, les dons de Christ à son Église. C'est Dieu seul qui peut leur faire trouver les portions de la vérité qui atteindront la conscience et répondront aux besoins des âmes. C'est lui seul qui peut les rendre capables de présenter cette vérité de telle manière qu'elle ait son effet. Dieu le Saint-Esprit connaît les besoins de tous en général, et de chacun en particulier dans l'assemblée, et il peut donner à ceux qui parlent de faire entendre la vérité même qui convient, qui est nécessaire. Qu'ils connaissent ou non l'état de ceux auxquels ils s'adressent. Combien n'est-il donc pas important d'être sans réserve sincèrement soumis à cet esprit? Une chose qui distinguerait toujours le ministère de l'esprit, ce serait des effusions découlant d'une affection personnelle pour Christ. M'aimes-tu? Jean chapitre 21 verset 15 à 17. Telle fut la question répétée trois fois à Pierre, en même temps qu'il lui était ordonné, aussi jusqu'à trois fois, de paître le troupeau de Christ. Car l'amour de Christ nous étreint, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, dit Paul. Combien ceci diffère de tant de motifs qui pourraient nous influencer naturellement. Combien il serait important que nous puissions, en bonne conscience, dire chaque fois que nous exerçons quelque ministère. Ce n'est pas le désir de me mettre en avant, ni la force de l'habitude, ni l'impatience, qui ne peut supporter que l'on ne fasse rien, qui m'a porté à agir. Mais c'est l'amour pour Christ, et pour son troupeau à cause de celui qu'il a acquis au prix de son propre sang. Certainement, C'était là le motif qui manquait au méchant serviteur, qui avait caché dans la terre le talent de son maître. Matthieu chapitre 25 verset 25. Outre cela, le ministère de l'Esprit, et toute autre action faite, dans l'Assemblée, sous l'impulsion de ce même Esprit, se distinguerait toujours par un sentiment profond de responsabilité envers Christ. Laissez-moi vous adresser une question, mes frères, et me l'adresser aussi à moi-même. Supposez que quelquefois, à la fin d'une réunion, on nous demanda « Pourquoi avez-vous indiqué une telle hymne, ou lu un tel chapitre, ou fait entendre une telle parole, ou prié de cette manière ?» Pourrions-nous répondre avec une pure et bonne conscience « Mon seul motif en le faisant a été la conviction sincère que telle était la volonté de mon maître. » Pourrions-nous dire « J'ai indiqué cet hymne, parce que j'étais pleinement persuadé que c'était l'intention de l'Esprit qu'elle fût chantée dans ce moment-là. J'ai lu ce chapitre, ou dit cette parole, parce que je sentais clairement devant Dieu que c'était là le service que mon Seigneur et Maître m'assignait. J'ai prié de cette manière, parce que je savais que l'Esprit de Dieu m'appelait à demander, comme bouche de l'Assemblée, les bénédictions implorées dans cette prière. Mes frères, pourrions-nous répondre cela? Ou n'agissons-nous pas souvent, plutôt, sans aucun sentiment de notre responsabilité envers Christ? Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. 1 Pierre chapitre 4 verset 11. Dit l'apôtre Pierre. Cela ne signifie pas qu'il parle selon l'Écriture, quoique naturellement ceci soit vrai aussi. Ce passage veut dire, ou plutôt dit, que ceux qui parlent doivent parler comme oracle de Dieu. Si je ne puis pas dire en parlant, je crois que Dieu m'a enseigné ce que je fais entendre dans ce moment à l'Assemblée, et que sa volonté est que je le dise maintenant, je dois me taire. Naturellement un homme peut se tromper en disant cela, et c'est au saint de juger par la parole de Dieu, tout ce qu'ils entendent. Mais rien que la conviction sincère devant Dieu, que Dieu lui a donné quelque chose à faire ou à dire, rien que cette conviction ne devrait porter qui que ce soit, à parler ou à agir de quelque autre manière dans les réunions. Si nos consciences agissaient habituellement sous cette responsabilité, ce serait sans doute un obstacle à beaucoup de choses. Mais en même temps, Dieu pourrait librement manifester sa présence, que souvent nous ne réalisons pas assez. Combien ce sentiment de responsabilité immédiate envers Christ est frappant chez l'apôtre Paul. Que si j'annonce la bonne nouvelle, dit-il, je n'ai pas de quoi me glorifier, car c'est une nécessité qui m'est imposée, car malheur à moi si je n'évangélise pas. Car, si je fais cela volontairement, c'est-à-dire par choix, et volontiers, j'en ai un salaire. Mais si c'est malgré moi, une administration m'est confiée, 1 Corinthiens chapitre 9 versets 16 et 17. Et combien sont touchantes ces paroles qu'il adresse aux mêmes chrétiens. J'ai été parmi vous dans la faiblesse, et dans la crainte, et dans un grand tremblement, chapitre 2 verset 3. Quel reproche pour la légèreté de cœur et la présomption avec lesquelles, hélas, nous traitons trop souvent, tous, la sainte parole de notre Dieu. Car nous ne sommes pas comme plusieurs, dit encore le même apôtre, qui frelatent la parole de Dieu. Mais comme avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, nous parlons en Christ. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Je voudrais toucher un autre point. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, et d'amour, et de conseil. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Un esprit de bon sens. Il est possible qu'un homme ait peu ou point de science humaine. Il est possible qu'il soit incapable de s'exprimer d'une manière élégante, ou même correcte. Il est possible qu'il manque de tout cela, et que, pourtant, il soit un bon serviteur de Jésus-Christ. Mais il faut qu'il possède un esprit de bon sens. Et, pendant que nous sommes sur ce sujet, m'est-il permis de mentionner une chose qui m'a quelquefois rendu très triste, ailleurs aussi bien qu'au milieu de nous? Je veux parler de la confusion entre les personnes de la divinité, confusion qu'on fait souvent dans les prières. Lorsqu'un frère, en commençant à prier, s'adresse à Dieu le Père, et continue en parlant comme si c'était lui qui fut mort et ressuscité. Ou lorsque, s'adressant à Jésus, il lui rend grâce d'avoir envoyé son Fils unique au monde, je vous l'avoue, je me dis, est-ce l'Esprit de Dieu qui peut inspirer de telles prières? Note, à ce que dit l'auteur, sur certains défauts des prières, lesquels ne peuvent jamais provenir de l'Esprit de Dieu, l'éditeur se permet d'ajouter quelques mots sur le même sujet. Premièrement, quand un frère, priant dans l'assemblée, s'adresse au Seigneur, en disant, « Mon Dieu, cela ne peut certes pas davantage venir de l'Esprit, qui identifie avec tous les frères celui auquel il donne de se lever pour être leur bouche. » Deuxièmement, quand une prière ou une action de grâce renferme de longues expositions de doctrine, je n'y puis voir, non plus, un effet du Saint-Esprit. Celui qui prie parle à Dieu, et non pas aux frères. Or il ne nous convient nullement de prêcher Dieu. Troisièmement, je doute que des actes de culte, se succédant toujours dans le même ordre, soient toujours dus aux directions de l'Esprit. Est-ce l'Esprit, par exemple, qui veut que toute réunion se termine par une prière, sans laquelle on n'oserait pas se lever pour sortir? Sans doute, une prière finale est tout à fait convenable et à sa place, si c'est Dieu qui la donne. Sinon ce n'est qu'une pauvre forme qui ne vaut guère mieux qu'une liturgie. Certainement tous ceux qui agissent dans le culte ont aussi besoin de l'esprit de bon sens pour éviter cette confusion. Aucun d'eux ne croit que le Père soit mort sur le calvaire, ni que Christ ait envoyé son Fils au monde. Où donc se trouve l'esprit rassi, l'esprit intelligent qui devrait caractériser ceux qui se mettent en avant comme les canaux du culte des saints? Lorsque le langage dont ils se servent exprime réellement ce qu'ils ne croient pas eux-mêmes. Ce qu'il serait choquant de croire. En réservant encore quelques points pour une autre lettre, je suis votre affectionné en Christ.